Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières. Une terre, une auteure.
Catherine Frochon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite aujourd'hui à découvrir deux écrivaines exceptionnelles. La première, oubliée de l'histoire littéraire et même dans son propre pays, l'Égypte, où elle s'est suicidée en 1963. Et la seconde, qui l'a ressuscitée dans un livre époustouflant. Un texte intitulé « Sur les traces d'Enayat Zayat », traduit en français aux éditions Actes Sud, et qui a obtenu le prix Sheikh Zayed Book Award, considérée comme le Nobel du monde arabe. Iman Mersal, elle aussi née en Égypte, est l'auteur de ce récit Enquête. De passage à Paris, elle est notre invitée, tout de suite. Bonjour Iman Mersal.
Ahlan wa sahlan.
Et je salue aussi Farouk Mardambe qui va aujourd'hui traduire vos propos et qui est directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud, où a paru en français votre livre. C'est un récit absolument remarquable que vous signez et qui pose de nombreuses questions à la fois littéraires, mémorielles, féministes, sociopolitiques, linguistiques, voire personnelles. Des thèmes qui émaillent votre cheminement sur les traces d'Enayat Zayat. Un livre qui s'articule aussi à deux niveaux, l'enquête elle-même en Égypte, de nos jours à la rencontre des derniers témoins, des lieux, des archives, et la réflexion que vous inspire cette quête et ce que dit cette femme, ou plus exactement l'oubli de cette femme, de notre société et de notre temps. Donc, dans cette première partie, si vous voulez bien, parlons des faits. Enayat Zayat, jeune écrivaine égyptienne qui, en janvier 1963, s'est suicidée à l'âge de 26 ans et dont le premier et unique roman a été publié 4 ans après sa mort en 1967. Une fiction qui, bien qu'elle a été adaptée au cinéma et en feuilleton radiophonique, a totalement été oubliée après cela, à l'image de son autrice. Or, par hasard, dans les années 90, Iman Mersal, vous tombez sur ce roman, « L'amour et le silence ». Que se passe-t-il à ce moment? Est-ce que c'est la lecture qui vous fascine ou le fait d'apprendre que Enayat Zayat a totalement disparu de la mémoire collective et cela vous intrigue?
سنة 93 أنا كنت كاتبة شابة عايشة لوحدي في القاهرة وكان عندي أسئلة كتير وكمان كنت
En 1993, je vivais en Égypte, j'étais jeune et j'étais assez mal dans ma peau. Et je cherchais quelque chose qui ressemble un peu à mon camp. Je voulais être en contact avec ce genre de littérature. Il y a des occasions comme ça, des choses qui arrivent parfois, c'est-à-dire ma situation personnelle et ma lecture de ce roman qui m'ont poussé à poser des questions. La première question, pourquoi se fait-il que ce roman n'existe pas dans le paysage littéraire égyptien? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il a disparu? C'était quelque chose qui me préoccupait aussi en tant qu'étudiante de littérature arabe. Qu'est-ce qui fait que tel livre reçoit une audience importante, d'autres non? Et cela correspondait à mes questions personnelles et intimes.
Peut-être qu'on peut dire quelques mots de ce roman. Que raconte l'amour et le silence? Pourquoi est-ce que vous avez été troublée en lisant le roman pour commencer?
Rouaïa fiha machakl.
Ce roman pose problème comme tous les premiers romans où il y a toujours des aspects qui, après coup, ne nous plaisent pas forcément. L'auteur commence son roman par un voyage de deuil. L'héroïne qui s'appelle Najla avait perdu son frère et le roman commence par cette perte.
كمان المحاولات خروج المرأة الشابة نجلاء للحياة من خلال العمل أو الحب
Et chaque fois que cette jeune femme essayait de s'en sortir par l'amour, par la politique, elle ne réussissait pas, mais tout en échouant à s'en sortir, elle gagnait des choses dans sa propre conscience, c'est-à-dire sa conscience se développait, elle avait conscience de la situation dans laquelle elle se trouvait, elle avançait quand même intimement.
كأني يعني في فكرة الأدب العظيم اللي إحنا كلنا متفقين عليه وفي فكرة الكتاب.
Bien sûr, nous savons ce que c'est que la grande littérature, mais il y a une autre littérature qui nous touche, parce que par quelques aspects. Là, ma question principale était pourquoi ce roman a été oublié, pourquoi on l'a éloigné, pourquoi on n'en a pas parlé comme on le devait. Et c'est ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer un peu cette situation.
Donc, Imane Mersal, vous êtes touchée par ce roman dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous vous rendez compte que son auteur, Enayat Zayat, a disparu. À cette époque, vous avez déjà, vous, quitté l'Égypte où vous êtes née, vous travaillez. Au Canada, où vous enseignez la littérature à l'université, vous êtes aussi vous-même auteur de poésie. Et commence tout doucement cette recherche. Et au fil de vos rencontres, avec sa meilleure amie, entre autres, qui était une actrice très célèbre, des confidences des uns et des autres, des échanges de mails, des articles, se dessine le portrait d'une femme qui a un parcours assez atypique en Égypte. Est-ce que c'est déjà quelque chose d'étonnant pour vous qui vous a poussé à continuer votre enquête ?
C'est la question de l'individu dans nos sociétés. Elle appartenait à une famille de grande bourgeoisie. Moi, j'étais d'une famille moyenne. Elle avait donc cette culture allemande, moi non, etc. Et c'est l'individualité, son individualité qui m'intéressait. Et mon individualité comparé à la sienne. C'est-à-dire, mon propre itinéraire comparé à la sienne. La première chose, c'est que cette femme cherchait un sens à la vie. Et elle trouvait ce sens dans l'écriture. C'est cette chose-là qui m'a passionné le plus. C'est-à-dire, et quand elle n'a pas pu réussir, la seule solution, c'était la mort. C'est-à-dire, c'était réussir en écrivant ou mourir.
Ça, c'est une des questions effectivement les plus fascinantes que vous posez dans votre récit, Imane Mersal. Est-ce qu'on peut se tuer à cause d'un livre qui est refusé par les éditeurs? Vous n'y répondez pas vraiment parce que personne n'a la réponse.
Je crois pas qu'on peut expliquer pourquoi, c'est-à-dire faire la relation entre son échec littéraire, disons, et son suicide. Si elle s'est suicidée, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre en elle. C'est qu'elle était fragile. Et pourquoi elle est fragile, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi.
Et à la fikra, yani, l'hachacha d'akhiliya, mish dud ou l'aks.
Et la fragilité ne signifie pas qu'on n'a pas de volonté de réaliser des choses. On est fragile pour d'autres raisons. Et en fait, c'était une femme courageuse parce que malgré cet échec, elle avait pensé à écrire un autre roman. C'est-à-dire, elle voulait s'affirmer. Donc, elle n'était pas. Si elle s'est suicidée, si elle était fragile, c'était autre chose. Ce n'est pas par manque de volonté.
لكن كان في نوع من العزلة أو الإيسوليشن كان في مشكلة في التواصل أنا تقريبا أشرت لده في الكتاب أكتر من مرة.
Il avait sa solitude dans son milieu. C'est-à-dire, je me suis posé plusieurs fois cette question dans le livre. Comment dans cette classe bourgeoise, les gens proches, la famille, etc., peut laisser une personne comme Enayat Zayat dans cette solitude.
والاكتئاب كمان الاكتئاب بيخلي التواصل أساساً أحياناً فكرة يعني
Et l'aliénation de cette femme dans sa famille et dans la société.
Je voudrais creuser un peu plus la question de l'édition. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous, Iman Mersal, son livre n'a pas été édité de son vivant ? Est-ce que c'est lié à son statut de femme, au fait qu'elle n'avait rien publié jusqu'ici, à son manque de relations dans le milieu ?
حوالين آخر الخمسينات وأول الستينات كان المتوقع من المرأة العربية اللي بتكتب.
Dans cette période, à la fin des années 50, début des années 60, on s'attendait d'une femme écrivaine qu'elle lie sa situation de femme à la situation d'ensemble, aux revendications nationales et revendications féminines qui devaient aller ensemble. Donc là, c'était autre chose.
شيء آخر مهم بالحقيقة بالنسبة لي إنه الإيديولوجي مش ليس أفكار سياسية فقط هو أيضا علاقة باللغة في الكتابة.
Et il faut dire aussi qu'elle n'était pas protégée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de cercle littéraire, elle ne faisait pas partie d'un cercle littéraire qui pouvait la protéger. Cela dit, quand on parle d'idéologie, il ne s'agit pas seulement d'idéologie politique. Il s'agit de tout l'ambiance de la création littéraire en Égypte durant cette période.
Donc d'un côté, ce refus des éditeurs, même si on l'apprendra au fur et à mesure de votre enquête, c'est surtout un quiproquo. Mais ça, je laisse le plaisir au lecteur de le découvrir. Et de l'autre côté, effectivement, elle s'est mariée très jeune, à 19 ans, elle a eu un fils, mais elle a fait les démarches de séparation avec son mari, ce qui est très compliqué encore en Égypte dans les années 60. Est-ce que vous pensez que ces deux éléments, l'échec, la peur de perdre son fils, ont d'une certaine façon nourri une dépression aussi dont elle souffrait depuis longtemps déjà.
Il y a bien sûr ces deux éléments, mais il y a autre chose aussi. Je reviens à la question de sa solitude. Nadia Lotfi, l'actrice célèbre, Nadia Lotfi était sa grande amie, son amie de cœur. Et le fait que Nadia Lotfi était préoccupée par sa carrière montante, et elle s'est éloignée de Inayat, et cela l'a beaucoup marquée. Sans doute aussi, elle se sentait pas aidée, disons, soutenue dans son milieu familial. Elle se sentait aussi très solitaire dans son propre milieu familial, y compris en rapport avec sa sœur.
Donc, effectivement, voici toutes ces pièces du puzzle que vous assemblez, Iman Mersal, peut-être pour nous faire mieux comprendre les raisons de cette destinée fatale, puisque, je le rappelle, le 3 janvier 1963, elle n'a même pas encore 27 ans, hein, Inayat Zayat se suicide. Et son roman va quand même être publié 4 ans plus tard. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité dans le milieu littéraire en Égypte qui a fait que on a voulu lui rendre hommage d'une certaine façon ?
لا حصل تغيرات كبيرة في مؤسسة النشر الحكومية خلال هذه السنوات.
Non, la maison d'édition qui a refusé la publication était la grande, l'entreprise géante créée par l'État après la nationalisation de beaucoup de maisons d'édition. Après 4 ans, le paysage était différent.
وحاول في الحقيقة أكثر من شخص منهم نادية لطفي نفسها.
نادية لطفي son amie a essayé de la faire publier dans certaines maisons d'édition, mais tout était nationalisé à l'époque. Mais un jour, il y a un grand intellectuel communiste égyptien qui est devenu responsable de cette maison d'édition et qui a décidé de la publier en 67.
Voilà, nous avons évoqué avec vous, Iman Mersal, les faits que vous avez reconstitués à partir de votre travail d'investigation. Nous allons parler maintenant avec vous dans cette deuxième partie des enjeux de votre livre et ce qu'ils disent de notre monde. Et en attendant, je vous propose de faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter comme musique, comme chanson ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'est-ce qui ferait plaisir peut-être à Inayat Zayat ?
على وجه الدقة أنها كانت تحب ليلى مراد جدا ولكن بالنسبة لي
Elle, Inayat Zayat, aimait beaucoup une chanteuse égyptienne disparue qui s'appelait Leila Mourad, actrice et chanteuse. Et puis moi, quand j'écrivais ce livre, comme ce n'est pas un hasard probablement, mais j'écoutais des chanteuses égyptiennes ou syriennes ou libanaises qui ont fait peu de chansons. C'était aussi peut-être parce qu'elles ressemblaient un peu à un être.
Alors qui par exemple?
Par exemple, une chanteuse qui s'appelle Nazik, Kolida Abalbi.
Kolida Abalbi, vous savez, Marie.
Exact.
On va l'écouter. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Imane Mersal pour parler de son livre intitulé « Sur les traces d'Enayat Zayat » paru chez Sindbad Actes Sud, roman lauréat du prix Sheikh Zayed Book Award, considéré comme le Nobel du monde arabe. Un récit, on l'a dit en première partie, qui nous fait découvrir l'existence de cette jeune écrivaine égyptienne morte en 1963, auteure d'un premier et unique roman publié en 1967 de façon posthume et disparue depuis de la mémoire collective. Mais un texte qui n'est pas une autobiographie au sens traditionnel du terme, mais qui suit les aléas de votre enquête, Imane Mersal. Une enquête qui dure plusieurs années entre le Canada et l'Égypte et qui donne les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, donc pas forcément dans un ordre chronologique, mais à la faveur de vos découvertes en Égypte, des voyages qui de plus en plus vont vous rapprocher de votre propre vie. Est-ce que vous diriez, Imane Mersal, qu'à un moment, vous avez compris qu'aller sur les traces d'Enayat Zayat, c'était aussi aller sur vos propres traces?
En étant à la recherche d'Enayat Zayat dans la ville du Caire, là où il habitait, en allant au cimetière, par exemple, où il était enterré, moi, j'avais rompu d'une certaine manière avec ma ville, avec le Caire, puisque je l'ai quitté à un moment donné. Et là, je redécouvrais de nouveau ma propre ville et mes propres pas. En fait, j'ai pu ainsi croiser, si vous voulez, mon propre itinéraire au Caire avec les itinéraires de Enayat, les lieux d'Enayat et mes propres lieux. Bien sûr, je connaissais, si vous voulez, intellectuellement que le Caire était une ville extrêmement riche et que sous chaque pierre il y avait toute une histoire. Mais là, je l'ai senti de façon épidermique, si vous voulez. Je l'ai senti d'une manière beaucoup plus concrète, sensuelle.
Et à plus de 50 ans d'écart, il y a un phénomène de superposition qui devient très intéressant. Par exemple, votre récit, donc, Imane Mersal, s'ouvre sur votre visite dans un cimetière à la recherche de la tombe d'Enayat Zayat, que vous ne trouvez pas d'ailleurs, vous la trouverez ailleurs et plus tard. Or, cette démarche n'est pas non plus arbitraire, puisqu'il se trouve qu'Enayat Zayat elle-même avait écrit qu'il fallait commencer les voyages par les cimetières, comme si un dialogue s'était établi entre vous au-delà du temps. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi, Imane Mersal ?
كان عندي إحساس إن أنا بعمل حاجة أنا مش عارفاها يعني بعمل بكتب.
J'étais très tendue. en écrivant ce livre. Je suis d'abord poète, je sais écrire de la poésie, je sais que je n'étais pas en train d'écrire un roman ni une étude académique sur une auteure. Bon, des choses qui sont habituelles pour moi. Et c'est pour ça que j'étais en train de faire quelque chose que je n'ai jamais fait et qui me rendait en permanence très tendu.
عندما قرأت جملة عناية الرحلة تبدأ من المقابر وهي
تبحث عن sa phrase que le voyage commence par le cimetière parce qu'elle cherchait le tombeau de cet égyptologue allemand juif. Je me suis dit, moi aussi, mon voyage à la recherche d'El Hayat doit commencer par le cimetière.
Et d'ailleurs, quand beaucoup plus tard, grâce à des amis, vous trouvez enfin l'endroit où elle a été enterrée, vous êtes bouleversé. Pourquoi Imane Mersal, cette tombe vous a-t-elle à ce point Et vous êtes encore bouleversé à l'idée d'en parler.
Une personne que je n'ai pas rencontrée, mais quand même qui a occupé ma vie pendant quelques années. Et puis ma première rencontre physique, disons, avec elle, c'était le cimetière, c'était la tombe. Bien sûr, c'est quelque chose qui vous bouleverse.
Il y a eu cette rencontre physique, mais bien avant, il y a eu aussi une rencontre intuitive. Par exemple, Imane Mersal, vous employez les mêmes mots, voire la même phrase, pour elle et pour vous. Si vous permettez, je vais lire ces deux extraits en français. Page 163, vous parlez de vous et de votre processus d'écriture. J'ai passé l'automne 2017 comme un épouvantail. Ma main tremblait dès que je prenais une tasse de café, mon humeur passait d'un extrême à l'autre à la vitesse de l'éclair. Les crises de panique m'assaillaient sans crier gare. Les somnifères étaient impuissants à vaincre l'insomnie. Les journées étaient des traversées périlleuses, des heures de travail, les nuits des gouffres où je tombais sans espoir d'en remonter. Et le pire de tout, retourner chez le psychiatre une heure tous les mercredis. Et quelques pages plus loin, page 178, cette fois-ci, vous parlez des Nayats. En novembre 1962, Enayat se rend à la clinique Beyman pour la dernière fois. Enayat s'est sentie comme un épouvantail. Sa main tremble dès qu'elle prend une tasse de café. Son humeur passe d'un extrême à l'autre à la vitesse de l'éclair. Les crises de panique l'assaillent sans crier gare. Les somnifères sont impuissants à vaincre l'insomnie. Les journées sont des traversées périlleuses, des heures de travail, les nuits des gouffres où elle tombe sans espoir d'en remonter. Et le pire de tout, retourner voir le psychiatre une heure tous les mercredis. Fermez les guillemets. Les mêmes mots, les mêmes phrases, pour parler de vous et parler d'elle à 50 ans d'écart, dans deux pays différents. Quel est votre commentaire ?
Oui, que je crois que l'écriture est un jeu. Je voulais expliquer par mon propre cas pourquoi Enayat était dans cet état. Et je l'ai décrite exactement comme la mienne, c'est-à-dire ma dépression et la sienne, identique.
Est-ce que c'est parce qu'elle vous ressemblait que vous l'avez trouvée, ou c'est parce que vous lui ressemblez qu'elle vous a trouvée ?
Oui, je crois que la vie serait impossible. S'il n'y a pas des voix qui nous venaient de certains morts, enfin, dans le sens métaphorique. Si j'ai écrit sur Enayat, si son cas m'a intéressé, c'est parce que le passé de ce pays m'intéressait. Et c'était aussi le moyen de comprendre comment moi j'ai été formé. C'est-à-dire comprendre aussi mes propres blessures à travers l'histoire de ce pays dans lequel une femme comme Enayat a souffert.
Donc, par l'écriture, vous avez superposé vos deux vies, d'une certaine façon. Et puis, vous l'avez sorti du tombeau avec une forme d'obsession à collecter les informations, les témoignages. Dans ce livre, il y a des photographies, il y a des extraits de son journal intime. Vous ressuscitez la femme et l'écrivaine qu'elle est. Et surtout, vous fustigez l'oubli. Dans le sens où, si elle a été oubliée, bien sûr, c'est parce qu'elle était seule, parce qu'elle était en marge, parce qu'elle était hors système, même si paradoxalement, c'est précisément sa quête de liberté individuelle qui ont fait sa singularité, mais qui ont fait qu'elle a été oubliée. Elle a aussi été victime d'une époque, d'un milieu où les femmes n'avaient pas, à quelques exceptions près, voix au chapitre. Et elle a été effacée de la mémoire collective parce que les archives ne sont plus la priorité aujourd'hui. C'est aussi contre l'oubli en général que vous avez écrit ce livre, Iman Mersal.
أنا حبيت والله التعبير ضد النسيان يعني تعبير حلو قوي.
J'ai aimé l'idée contre l'oubli, l'expression contre l'oubli. Il y a de ça.
يعني أكيد في حاجة أخلاقية مهمة إن إحنا نعمل فعل ما ضد النسيان لكن في ضرورة تانية.
Je crois que c'est très important de d'avoir cette attitude de refuser l'oubli.
ولكن يعني ليس مهما أن تصبح عنايات الزيات جزء في تاريخ الأدب العربي.
L'important pour moi n'était pas de dire que cette femme devait avoir une place dans l'histoire de la littérature arabe.
مجرد حكاية قصة واحدة والإخلاص في معرفتها.
Et même si le puzzle est incomplet, au moins on a l'espoir que des individualités, des personnes qu'on a oubliées peuvent réexister réellement dans l'espace collectif.
Ce que j'aimerais comprendre pour finir avec vous, Iman Mersal, qu'est-ce que cette femme nous dit à nous aujourd'hui, qu'on soit égyptienne, européenne ou américaine, écrivaine ou pas, qu'est-ce qu'elle nous transmet aujourd'hui, 50 ans après sa mort ?
Il y a des lecteurs qui peuvent penser que l'essentiel dans ce livre, c'est que je parle de la répression des femmes dans la société. Mais je dirais que c'est banal, parce que c'est une question sur laquelle nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que la femme a été opprimée dans cette société, etc. Bon, et c'est autre chose. Non, elle doit nous dire comment on est marqué par une situation économique, politique, familiale, à un moment donné de l'histoire. Mais elle veut nous dire surtout comment peuvent coexister la fragilité et la volonté. La fragilité de cette femme et aussi sa volonté de se réaliser jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Iman Mersal.
Merci, Kedem.
Merci vraiment de nous avoir parlé de ce magnifique récit qui est à la fois le portrait d'une femme, le portrait d'une époque, le portrait d'un pays, d'un milieu littéraire qui pose la question de l'oubli, des archives, et puis qui est en creux est un portrait de vous aussi, l'écrivaine et poétesse que vous êtes. Je rappelle le titre en français, « Sur les traces des Nayat Zayat », récit traduit de l'arabe par Richard Jacquemont, publié dans la très belle collection Sinbad chez Actes Sud. Et merci à Farouk Mardambé qui justement dirige cette collection et était avec nous aujourd'hui pour traduire les propos d'Iman Mersal. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Littérature sans frontières.